Dans le cadre de la 32e Semaine nationale de prévention du suicide, elle se déroulera soit du 30 janvier prochain au 5 février 2022 et ça prendra sous le thème « Parler du suicide sauve des vies » pour nous parler de cette semaine qui prendra place très bientôt. On a Kim Bouchard avec nous qui est responsable en communication et au développement du Centre de prévention du suicide Côte-Nord. Allô Kim!
Allô!
Merci d'avoir de prendre en fait quelques minutes avec nous pour nous parler de cette 32e semaine nationale. C'est intéressant d'en parler, c'est surtout très, très important. Je pense, entre autres, au temps de pandémie depuis 22 mois aussi. Il y a des activités, si je peux les appeler comme ça, il y a des trucs justement à parler un petit peu plus en profondeur pour cette semaine-là. Les premiers objectifs de cette semaine de prévention du suicide, ça ressemble à quoi?
Bien, c'est sûr que à travers les années, là, ça se ressemble beaucoup, mais c'est vraiment de sensibiliser puis de mobiliser la population parce que dans le fond, c'est ensemble là, qu'on va vraiment faire la différence. Fait qu'on va vraiment essayer d'augmenter la connaissance des ressources d'aide. On va valoriser la demande d'aide aussi. Ça, à travers les années, c'est quelque chose qu'on essaie de faire puis qui fonctionne de plus en plus. Là. C'est de moins en moins tabou de dire j'ai recours à des ressources quelconques, quoi que ce soit, je ne vais pas bien et je vais chercher de l'aide.
Ouais.
Puis sinon, ben, c'est vraiment de favoriser la prise de parole. Comme tu le disais, le thème de la semaine de prévention, là, c'est parler du suicide sur des vies. Fait que c'est sûr qu'en parlant, si on ne va pas bien, ça va aider. En abordant le sujet, si on connaît quelqu'un qui ne va pas bien, ben, ça va aider aussi. Puis simplement, comme population, ensemble, d'ouvrir la discussion là-dessus, là, ça va vraiment aider à briser les tabous à travers les années.
La Côte-Nord, c'est particulier comme région, c'est très, 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 très vaste. Si on y va un petit peu plus par secteur, si on parle du secteur Haute-Côte-Nord, est-ce que selon toi, c'est d'autant plus important de parler des ressources qui existent puisque c'est un petit peu plus difficile versus une ville comme Baie-Comeau pour aller chercher justement l'aide nécessaire?
C'est sûr que les ressources sont quand même, malgré tout, même si on est régional, on va être peut-être un peu plus centralisé au niveau de cette rivière, au niveau de la Manicouagan. Fait que peut-être que au niveau de la Côte-Nord, oui, c'est la Haute-Côte-Nord, c'est plus c'est encore plus important de faire des actions de mobilisation, de discuter de ce qui est possible comme ressource, de comment on fait pour aller chercher de l'aide aussi, parce que justement, on ne veut pas que cette population-là soit plus isolée. Les ressources sont là quand même, mais peut-être d'une façon différente, mais faut savoir justement là, comment pouvoir avoir accès à ça.
Et justement, pendant cette semaine de prévention-là, qu'est-ce que vous allez faire de votre côté pour essayer justement d'augmenter la connaissance de ces ressources-là pour demander à la population de ne pas avoir peur d'en parler?
Et à ce moment-là, nous autres, on a deux activités principales. En fait, on va dire action de prévention, là, parce que ce n'est pas des activités directement sur le terrain là, en raison des mesures en place. Mais
ouais.
Premièrement, on va utiliser les réseaux sociaux qui sont très avantageux dans notre cas, vu que le territoire est grand à couvrir. On se permet comme ça de rejoindre un plus grand nombre de personnes. Le 31 janvier prochain, va être lancée une communauté sur Facebook pour rejoindre les endeuillés par suicide de la région. Donc ça se fait à quelques endroits au Québec, mais c'est vraiment quelque chose qui se développe en ce moment. Fait que nous, ce qu'on veut avec cette communauté-là, c'est vraiment que les personnes qui ont vécu un deuil par suicide puissent se rejoindre, puissent se soutenir ensemble, puissent en discuter parce que le deuil, en général, c'est quelque chose qui est douloureux puis qui est complexe, qui est difficile à comprendre. Mais le deuil par suicide, ça vient avec une toute autre réalité.
Ouais.
Ça vient avec des questionnements, ça vient avec encore peut-être un peu plus de souffrance, des questions qui ne seront jamais répondues non plus. Fait que je pense que c'est important que ces personnes qui vivent cette épreuve-là soient éparpillées un peu partout sur le territoire, mais qui puissent se rassembler, qui puissent discuter, qui puissent normaliser tout ce qu'ils ressentent. Puis à ce moment-là, c'est aussi le fun de voir qu'à travers le temps, mais c'est possible de s'en sortir. Mm-hmm. Fait que ça, c'est d'avoir des beaux témoignages à portée de main aussi. Là. Dans ce projet-là, nous, on lance la communauté, on agira à titre de modérateur, mais c'est vraiment les gens qui ont vécu le deuil par suicide, en fait, qui entretiendront les discussions, qui aborderont les sujets qu'ils veulent, qui se questionneront entre eux, puis qui se répondront aussi entre eux.
Oui, puis dans le fond, ça devient intéressant aussi, comme de mettre en lumière aussi ces gens-là, parce que, évidemment, de votre côté, vous essayez d'aider le plus possible les bénéficiaires, les gens qui ont besoin d'aide, mais les gens qui sont autour d'eux, leur entourage, vous pouvez aussi également les aider et les soutenir, là.
Oui, exactement. On a vraiment un volet d'accompagnement pour ces personnes-là qui vivent un deuil. On a différents, si on veut, ententes mises en place, là, vraiment à travers le territoire, à travers les organisations, par exemple la Sûreté du Québec, le Centre de santé et de services sociaux. On va vraiment nous référer ces personnes-là qui ont vécu une perte par suicide. Puis nous, on va les accompagner. On va voir, dans le fond, justement, si le deuil se déroule bien, si on peut les aider à mettre des choses en place. D'un autre côté, au-delà de l'accompagnement et de l'intervention qu'on peut faire avec ces personnes-là, c'est des personnes qui redonnent beaucoup aussi au niveau de la prévention du suicide, pas simplement, exemple, au niveau de monétairement, mais vraiment, c'est les meilleures porte-paroles qu'on ne peut pas avoir, là. Fait que souvent, on voit des mobilisations citoyennes qui sont faites par des ateliers qui veulent donner un sens à cette perte-là qu'ils ont eue. T'sais, ils veulent rendre ça utile, ils ne veulent pas avoir vécu ça pour rien. Fait que c'est des gens qui vont être porteurs d'espoir, vont être porteur de notre message, puis dire que le suicide, ça n'a pas seulement un impact au niveau de la personne qui décide de passer à l'acte, mais surtout au niveau de l'entourage, tu sais, l'impact négatif que ça peut avoir partout dans la communauté, puis cette onde de choc-là, ben, tu sais, est très grande, là, c'est pas la famille immédiate, là, ça peut être une communauté au complet qui est endeuillée par suicide quand ça survient.
Ça devient aussi une belle façon de venir sensibiliser une personne qui pourrait avoir ces idées suicidaires-là. Tu me disais un petit peu plus tôt avant l'entrevue aussi qu'on n'a pas nécessairement de chiffres très, très précis et très, très à jour pour la Haute-Côte-Nord. Par contre, il y a un certain rang de secteur où la Haute-Côte-Nord se tient pas mal d'année en année. Tu me parlais également que la clientèle n'est pas nécessairement plus élevée, mais elle a changé de visage. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces chiffres-là et de cette tendance-là?
Bien, c'est sûr que, comme je te disais, dans le fond, au niveau de la Haute-Côte-Nord, à travers les années, souvent, on voit que les personnes qui consultent le plus les services du centre de prévention, bien, ça va être, en tout premier lieu, les gens de la MRC de Sept-Rivières, ensuite, les gens de la MRC de Manicouagan, puis par la suite, la Haute-Côte-Nord se trouve au troisième rang. Fait que c'est sûr qu'au niveau du pourcentage, quand on répartit là, notre clientèle, ça va être un peu moindre, mais évidemment, bien, il y a moins d'habitants, fait qu'on s'attend un peu à une répartition comme ça. Par contre, ce qu'on voit à travers les années, puis ça, bien, probablement qu'on peut l'attribuer à la pandémie aussi, là, la clientèle qui fait affaire avec le centre de prévention du suicide, on attribue beaucoup plus de jeunes. Donc, on parle de jeunes de 18 ans et moins. Je pense, pour ne pas nommer de chiffres à l'aveuglette, là, mais si je ne me trompe pas, en 2019, les chiffres qui étaient répertoriés, c'est qu'on avait à peu près une cinquantaine de jeunes en suivi. Pour l'année passée, en 2020, on était monté à presque 75. Ça fait qu'on a une augmentation d'à peu près 40 % des jeunes qui, probablement directement liés, comme je l'ai dit, aux mesures, là, en fait, qui ont vécu beaucoup plus d'isolement, qui ont vécu des retraits de l'école, l'école à distance, moins d'activités sociales, moins d'activités sportives. Tout ça, ça a probablement exacerbé des symptômes d'anxiété ou de dépression qui étaient peut-être un peu minime, mais présent quand même. Donc, ces jeunes-là qui allaient peut-être un peu moins bien vont encore moins bien. Fait que c'est vraiment un bond de 40% qui est assez impressionnant, qui est un peu alarmant aussi. On essaie de mettre des choses encore plus en place pour pouvoir rejoindre cette clientèle-là. Je pourrais faire un parallèle vite et vite là, avec les outils numériques en prévention du suicide qui ont été mis en place au niveau du Québec, dont suicide.ca, qui regroupe le clavardage en ligne, l'intervention par texto aussi, qui va peut-être être plus accessible et plus intéressante pour une jeunesse de 18 ans et moins qui est vraiment plus tournée vers les technologies. Fait que c'est des choses qui, ensemble, là, on peut essayer de mettre en place, qu'on peut se permettre, en fait, là, de rêver que ça pourrait nous aider à rejoindre ces personnes-là. Là. Fait qu'on va miser vraiment plus sur la prévention, mais l'accessibilité pardon, des services aussi.
Oui, parce que en fait, faut parler aussi de comment ça fonctionne une personne qui ressent le besoin de demander de l'aide ou une personne très proche ou de l'entourage qui veut demander de l'aide pour cette personne-là. Les options qui s'offrent pour une personne citoyenne de la Haute-Côte-Nord, on a parlé du www.suicide.ca. C'est intéressant parce qu'on peut parler par SMS aussi, ça peut être clavardé. Mais qu'est-ce qui peut être offert pour quelqu'un qui demande de l'aide?
Bien, c'est sûr que le plus important, je pense, en premier lieu, c'est sûr que pour un accès rapide, pour un accès, comme on disait, il y a quand même l'option des textos, du clavardage et tout, qui ensuite, selon la situation, pourra nous être référé, nous, en région. Mais il faut savoir que ça, c'est un service qui est québécois. Ce qui est intéressant avec le Centre de prévention du suicide, mais c'est un service qui est régional. Ça veut dire ça qu'on a des connaissances d'à peu près tout ce qui se passe sur le territoire. On a des ententes avec à peu près toutes les organisations publiques ou comme du territoire aussi. Ça rend l'échange des services ça beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile. Fait que dans un premier temps, si on ne va pas bien ou si on s'inquiète pour quelqu'un, je pense que ça serait vraiment d'appeler le 1-866 s'appelle. À ce moment-là, si vous êtes un proche, c'est intéressant de savoir que ça peut être fait de façon anonyme ou pas. À ce moment-là, si on doit rejoindre la personne, si on doit la personne qui ne va pas bien, en fait, là, si on doit mettre des mesures en place, on n'est pas obligé de vous nommer. Fait que quelqu'un qui s'inquiète, là, qui ne voudrait pas briser un lien de confiance ou quoi que ce soit, ben, soyez rassurés là-dessus. Là, c'est vraiment la confidentialité est vraiment très importante. Fait que ça serait vraiment d'appeler 24/7 là, dans le fond, on est disponible en tout temps, même les jours fériés, en plein milieu de la nuit, quoi que ce soit. Fait qu'à ce moment-là, nous, ce qu'on va faire, c'est évaluer la situation. Nos intervenants vont prendre ça à charge. On va essayer de sécuriser la personne, de vraiment diminuer la crise. Puis à ce moment-là, si c'est pas le bon candidat pour nos services, on va référer tout simplement vers une autre organisation. Puis à ce moment-là, ben, comme la référence vient de nous, peut-être que ça sera encore plus rapide, peut-être que ça sera encore plus facilitant d'avoir accès à d'autres services. Si vous êtes plus ou moins à l'aise avec le téléphone à ce moment-là, depuis décembre 2020, que c'est possible avec le centre de prévention d'avoir accès à de l'intervention face-à-face ou de l'intervention par visioconférence. Fait que ça, c'est le fun parce qu'on peut voir l'intervenant à qui on parle, on peut développer un lien de confiance. Des fois, c'est pas facile de se confier à quelqu'un qu'on connaît pas au téléphone.
Oui.
Comme dans d'autres situations, ça peut être complètement l'inverse. Là, t'sais, on ne veut pas savoir trop quoi qui on parle, la personne ne sait pas qui on est non plus, mais des fois, c'est le fun de développer vraiment là, un lien de confiance thérapeutique. Là, ça peut être vraiment bénéfique. Fait qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis comme on le disait, si nous, on est basé à Bécomo, à ce moment-là, même si les gens sont de la Haute-Côte-Nord, ils ne peuvent pas se déplacer pour X raisons, mais la visioconférence, c'est un très bon choix. Puis on bénéficie quand même là, de l'intervention qui est face-à-face malgré tout, mais à distance.
Donc, il y a beaucoup de solutions pour. Il y a beaucoup de solutions au point, mais il y a aussi beaucoup de solutions de la façon qu'on peut parler à quelqu'un de compétent pour nous venir en aide ou si on connaît quelqu'un qui a besoin d'aide. Évidemment, c'est beaucoup de choses qui sont mises en place. On sait que ça se fera du 30 janvier au 5 février. C'est une semaine de sensibilisation pour en parler, mais chose certaine, c'est important d'en parler aussi toute l'année. C'est une grande semaine qui vous attend. Je pense que ça fait le tour pour nous et on invite en fait toute la population, si vous avez besoin d'aide, de ne pas hésiter à faire le 1-866 appel. Merci beaucoup, Kim, d'avoir pris quelques minutes avec nous.
Bien, merci à toi de l'invitation, c'est vraiment apprécié. Puis plus on en parle, bien, plus c'est efficace, tout le monde ensemble pour développer les réflexes de sensibilisation.